Le 100e congrès mondial de l'espéranto s'est déroulé du 25 juillet au 1er août à l'île Grand Palais. De nombreuses personnes venues des 5 continents y ont participé afin d'échanger en espéranto. Au programme de ce congrès, des spectacles, concerts, expositions, également des cours d'espéranto. Et pour répondre à nos questions concernant la langue, on écoute Bruno Flochon, chargé des relations presse.
C'est le mondial d'espéranto, c'est la plus grande rencontre d'espérantophones au monde, organisée par l'association mondiale d'espéranto qui s'appelle OEA et qui regroupe des participants de 82 pays et qui tous ont fait un pas vers les autres en apprenant cette langue qu'est l'espéranto.
D'où vient en fait cette langue tout simplement ?
C'est une langue vivante qui a été créée par un humain. L'initiateur est lui Lazar Zamenhof en 1887 dans la Pologne de l'époque à Bialystok et il a créé cette langue pour qu'elle serve d'intercompréhension à des gens qui n'ont pas la même langue maternelle de manière à ce que l'un n'impose pas sa langue à l'autre.
Et c'est une langue qui est reconnue officiellement ou pas du tout ?
C'est une langue qui a le soutien de l'UNESCO. En 1954 et en 1987, l'UNESCO a reconnu d'une part les progrès faits par l'espéranto et en 1987, l'UNESCO a demandé à tous ses membres, donc quasiment tous les pays de la planète, de l'introduire dans ses systèmes d'enseignement scolaire.
Donc du coup, c'est une langue qui appartient à aucun pays précisément ?
Tout à fait, c'est une langue qui appartient à la communauté humaine.
Elle est parlée par beaucoup de personnes dans le monde ?
Alors, c'est un phénomène qui est en expansion. Comme tout phénomène en expansion, au début, on ne voit pas grand-chose. Nous estimons, puisque tous sont bilingues, il n'y a pas d'indigène de l'espéranto. Comme il n'y a pas d'État, c'est difficile de savoir combien il y a de personnes, mais nous estimons qu'il y a entre 5 et 10 millions de personnes dans le monde qui ont fait l'effort d'apprendre l'espéranto et qui l'utilisent.
Ils l'apprennent, mais est-ce que pour quelques personnes, c'est tout de même une langue maternelle ?
C'est effectivement une langue maternelle pour quelques personnes, que l'on appelle des denaskuloi, des gens qui ont appris depuis la naissance. Et c'est le cas de mes enfants, par exemple.
Donc du coup, ils ont deux langues maternelles, le français et l'espéranto.
Alors c'est très souvent une langue maternelle et comme langue paternelle, l'espéranto.
Quelqu'un qui a 2015 Doumil Degvin, c'est bien ça. Vous avez compté en espéranto.
Concernant l'alphabet, les lettres, c'est les mêmes lettres que le français ?
Alors, ce sont les mêmes lettres que le français, avec quelques lettres qui ont un chapeau, un peu comme dans une langue slave, mais là on a un chapeau qui est dans l'autre sens, pour les sons ch, ch, r. Des sons comme ça. Par contre, la particularité, c'est que c'est une langue phonétique. Vous voyez une lettre, vous savez la prononcer. Vous entendez un mot, vous savez l'écrire.
Donc moi, j'ai vu quelques exemples de l'alphabet espéranto et j'avais un peu l'impression qu'on pouvait la rattacher au latin ou à l'espagnol. Alors, je me suis complètement trompée ou on peut quand même la rattacher ?
Vous pouvez la rattacher et c'est également une langue qui a plusieurs facettes. Donc, vous y avez reconnu ce que vous connaissez. Vous y avez reconnu beaucoup de racines issues du latin et de l'espagnol, si vous le parlez, parce que Zamenhof, à l'époque, avait besoin qu'elle soit rapidement comprise par un grand nombre de gens. C'était les langues français, allemand, anglais, polonais, surtout les quatre premières, dans lesquelles il a pris le fond des racines existantes. Par contre, son fonctionnement agglutinant n'est absolument pas commun aux langues indo-européennes que nous parlons. Donc, en d'autres termes, pour sa grammaire, ça fonctionne beaucoup plus comme une langue comme le turc ou le chinois qu'une langue comme le français. Eux vont y trouver, les turcs, les chinois, les gens qui viennent de ce type de langue, vont y trouver une aisance et une logique qui pour nous peut être étonnante.
Facile à apprendre que les autres langues vivantes. Je l'ai lu sur un des panneaux d'affichage. Pourquoi ?
C'est une langue qui est plus facile à apprendre que les autres langues parce que vous avez à chaque fois un raccourci et une généralisation, chose qui est très naturelle pour l'enfant. Par exemple, une lettre égale un son. Donc, dès que vous savez prononcer les lettres, vous savez tout prononcer. Vous pouvez apprendre à prononcer l'espéranto à partir d'un simple livre sans jamais l'avoir entendu et ça va être compris par un autre. Donc déjà, on gagne du temps là-dessus. On gagne du temps sur le fait que chaque racine a des morceaux qu'on vient coller devant ou derrière, des suffixes et des préfixes, qui eux lui donnent un sens, donc changent le sens du mot. Et donc vous allez reconnaître des mots que vous n'avez jamais vus auparavant. Parce que cette racine a déjà un sens pour vous en allemand ou en anglais, et comme vous connaissez ce qu'on a collé derrière, vous comprenez. Donc j'ai comme ça réussi à faire penser des gens en espéranto qui 5 minutes avant ne savaient même pas ce que c'était et qui m'affirmaient que oui, moi je suis nul pour penser en allemand par exemple.
Est-ce que vous pouvez dire un petit mot pour la radio ? Comment par exemple vous dites en espéranto « j'adore PFM » ?
Michategas PFM.
Merci beaucoup.
C'était Bruno Flochon, chargé des relations presse de ce 100e congrès mondial espéranto. Autre témoignage, ceux de deux congressistes croisés à Lille Grand Palais.
Comment est-ce que vous avez connu l'espéranto ?
J'ai connu l'espéranto il y a assez longtemps. C'était lors d'un voyage en Angleterre où j'avais découvert une méthode dans l'espéranto par l'anglais. Donc j'ai découvert ça là, j'avais abandonné l'idée. Puis j'ai retrouvé l'idée dans une revue qui donnait des cours d'espéranto. J'ai appris comme ça, par correspondance.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre l'espéranto ?
Au départ, c'est une passion pour les langues, en général, et puis une curiosité sur cette langue qui était quand même un petit peu particulière dans le monde des langues. Et puis voilà, je suis tombé dedans et j'ai continué.
J'en ai entendu parler quand j'étais jeune, mais on m'a dit que c'était pas intéressant. Mon père, qui était traducteur-interprète d'anglais, parce que je suis d'origine britannique, disait « oui, c'est une langue artificielle ». Non, je ne me suis pas intéressée du tout. Et puis j'ai vu une exposition dans les années 80, je me dis « tiens, c'est pas mal ». Mais c'est tout. J'ai acheté la 6000 d'espéranto, mais j'en ai rien fait. Et en 2007, donc il n'y a pas très longtemps pour moi, parce que je suis déjà à la retraite, en 2007, à Arras, il y a eu un concert de Paul Skartois, c'est un groupe folklorique polonais, et de Yomo, qui est un chanteur espérantiste qui chante et chantait à l'époque en 25 langues, mais maintenant je crois qu'il a encore augmenté, il est dans le livre Guinness des records, et il chantait entre autres en espéranto. Alors, Non, c'est trop fort, c'est génial. Enfin, moi, j'adore les langues. Et c'est plus pour d'abord comme pour un intérêt de linguiste que je m'intéresse à l'espéranto. Je me suis dit, bon, comme c'est facile, je vais essayer de l'apprendre. Puis je verrai après si c'est nul ou pas, quoi.
Et du coup, vous avez mis combien de temps pour apprendre la langue ?
Je pense qu'en 3-4 mois, je me débrouillais.
Ça, c'est vraiment comme marqué sur les livres ou les prospectus. Ça m'a... Ah oui. J'ai en moins d'un an, j'avais les bases. J'ai très rapidement voyagé à l'aide de la langue, en appuyant sur les réseaux qui existent dans le monde espéranto. Et ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai vraiment beaucoup voyagé grâce à ça.
Les gens qui sont dans le milieu espéranto sont souvent un peu plus intéressants que la moyenne. Ce sont des gens ouverts, ouverts sur le monde, qui ont envie de voyager, qui ont envie de comprendre. C'est un milieu chaleureux.
Il y a beaucoup de gens qui disent que l'espéranto, c'est une langue qui n'est pas très intéressante à apprendre parce que, justement, on ne la pratique pas beaucoup. Ce n'est pas une langue... culturelle, elle n'a pas de culture. Vous en pensez quoi, vous ?
Moi, je pense tout le contraire, parce qu'il s'est créé une culture déjà propre à l'espéranto. On peut trouver des ouvrages, des livres, on peut trouver de la musique, on peut trouver de la chanson, on peut trouver de la poésie, on peut tout trouver en espéranto. Et en plus, on a aussi des traductions. C'est ce qu'on a fait, nous, cette semaine, là, puisqu'on a montré la chanson française dans l'île. Voilà, donc nous, c'était notre objectif cette semaine, de montrer la culture française à travers la chanson avec des traductions, des adaptations en espéranto. Donc ça aussi, c'est un véhicule de culture. Donc il y a la culture propre de l'espéranto et il y a tout ce que ça peut véhiculer des autres cultures.
Je crois que c'est pas mal utile pour des gens qui sont nuls en langue et qui, par exemple, ont des mauvais souvenirs de leur anglais ou de leur espagnol ou de leur allemand et qui se disent « jamais je ne pourrai parler une langue étrangère ». Et ils s'aperçoivent qu'en espéranto, ils y arrivent. Et on les voit ici, ils bondissent de joie. « Oh, j'ai réussi à me faire comprendre !» Mais moi, ce que je pense, vraiment ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'espéranto à l'école primaire. Ouais. Parce que ça aiderait pour la langue française. Par exemple, pour savoir qu'est-ce qui est un nom, qu'est-ce qui est un verbe. Par exemple, laboro, c'est le travail. Et labori, c'est le verbe travailler. Eh bien, ça permettrait à des jeunes enfants d'avoir plus la conscience même de leur propre langue, de savoir ce que c'est qu'un adjectif, un nom, un verbe, parce qu'ils sont marqués. L'adjectif, c'est en A, le nom, c'est en O, le verbe, c'est en I. Et ça aiderait les jeunes français pour apprendre la grammaire. Et ça aide aussi pour débloquer un peu psychologiquement, pour apprendre une autre langue. Parce que ça montre la possibilité, prouve vraiment la possibilité très vite de se faire comprendre. Et après, ça aiderait à apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe et le français aussi, et le latin et le grec. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on autorise, c'est quand même pas la lune qu'on demande, que des jeunes puissent passer l'espéranto au bac comme matière facultative. Comme on peut passer, du basque, du breton. Et on aurait suffisamment de gens qui sont diplômés en espéranto pour faire passer ces examens. du bac. Pour les jeunes, pas les gens comme moi. Mais s'ils apprennent l'espéranto, disons en 6 mois, enfin en, disons en 1 an, on va prendre une année scolaire, quoi. Après, ils prennent ce qu'on appelle passeport a cervo. Service de passeport, ça s'appelle, mais c'est pas un, on ne vous donne pas un passeport. Hein. Et il y a des milliers d'adresses dans une centaine de pays du monde. Et vous pouvez contacter ces gens-là et aller dormir chez eux gratuitement. Et parler avec eux en espéranto, et comme ça ils peuvent vous faire visiter la ville plutôt que d'être à l'hôtel comme un con, ouais, entre quatre murs blancs avec des lits, des draps tout lisses désagréables, ouais. On est vraiment chez les gens, quoi, ouais. Et ça pour les jeunes, moi je trouve que c'est super. Si j'avais 20 ans, je ferais le tour du monde, ouais, comme ça, et on, sans quasiment rien payer, quoi.
On écoutait donc les témoignages de deux participants au Congrès mondial espéranto à Lille. Ça s'est donc déroulé du 25 juillet au 1er août dernier. Si vous voulez apprendre ou pratiquer l'espéranto à Arras, sachez qu'il existe une association, Arras Espéranto, qui est basée à l'Office culturel, 61 Grande Place. Elle propose des activités culturelles ainsi que des cours pour les débutants ou des cours de perfectionnement. Ça se déroule chaque lundi de 18h à 20h et c'est uniquement en période scolaire. Ce la rando de Baltico, en Vieno, en Paris, estis laboristoin. Vi fabricis por ni un novan mondon. Yes, fabricis por ni un novan mondon. Iago, bo, 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 iago, boi. Kia estis via destin. Iago, bo, 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 iago, boi. Fine revis pri Palestin.
Carta e pickle flies logis kai inspiris Levin pri un festo della lumoi la unu attack de mai alla strata al tiris Vi vi revis por ni pri la nova mondo Yes vi revis por ni pri la nova mondo Ia bo 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 mi a bo boi Kia estis via destin Ia bo 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 mi a bo boi
Bo, 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 mi, ja, bo, bo, i Winnie, rem, moru, sen, cię.